Écho d'économie.
À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Écho d'économie sur Radio Capi. En voici les titres. La proposition de supprimer quelques droits, taxes et redevances dues à l'État sur les importations des denrées alimentaires telles qu'envisage le gouvernement risque de tuer l'industrie locale. C'est le point de vue du coordonnateur de l'ASBL, Toile d'araignée. Les entreprises du portefeuille de l'État congolais ne sont pas de canards boiteux. Il leur manque tout simplement la bonne gouvernance afin qu'elles jouent effectivement le rôle qui est le leur dans le cœur de l'économie nationale. C'est Jean-Lucien Boussa, le ministre du portefeuille, qui le dit. Il est l'invité de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. À Kinshasa, l'ASBL Toile d'araignée spécialisée dans l'analyse des questions socio-économiques en RDC s'insurge contre la mesure du gouvernement visant à supprimer quelques droits, taxes et redevances sur les importations des denrées agroalimentaires de première nécessité dans le pays. Pour le coordonnateur de cette ASBL, cette suppression risque de tuer l'industrie locale. Jérôme Sekana estime que le déficit de la demande de l'huile de palme, par exemple, peut être comblé si l'on alloue les moyens aux producteurs locaux. Jérôme Sekana, coordonnateur des projets de l'ASBL Toile d'araignée, l'a dit le week-end au cours d'un point de presse à Kinshasa. Écoutons ses propos recueillis par Tati Mapoukou.
Les chiffres que je viens de vous produire découlent de ces études-là. Et nous constatons que le gap n'est pas si important quand nous prenons par exemple le cas de l'huile de palme. Les besoins sont de l'ordre de 550 000, nous produisons 301 000. Le gap est de 200 000. Est-ce que nous pouvons manquer des solutions pour combler ce gap? Dans la salle, un confrère a proposé, on peut réduire l'importation en disant que nous n'avons besoin que de 200 000. Ça, c'est l'une des solutions. Ou on peut dire, et la solution la meilleure, je l'ai proposée ici, il faut aller vers les Congolais qui sont dans les secteurs, les subventionner, leur donner les moyens d'aller importer. Mais l'importation doit être le plan B. Le plan A doit être la production locale. Nous devons arriver à produire même 1 million de tonnes métriques d'huile de palme et nous avons ce potentiel-là.
On le dit souvent, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens et ceci se vérifie bien à Beni au Nord Kivu, où certains chefs de famille passent leur nuit dans des ateliers de fortune appelés Quado. Ici, ils réparent des pneus de moto et des voitures. Malgré les difficultés de ce travail nocturne, ces réparateurs encouragent les jeunes à apprendre des métiers manuels pour subvenir à leurs besoins dans cette région où les opportunités d'emploi manquent cruellement. Marc Maroufimbo est allé à leur rencontre et nous propose ce reportage.
Les réparateurs communément appelés Quado sont visibles à partir de 19h dans les rues de la ville installées sous les lampadaires installées sur certaines avenues par la société énergie de Kivu NK. Ils réparent les pneus des motos et des véhicules jusque tard dans la nuit. Malgré la pénibilité de ce métier, la persévérance finit toujours par porter ses fruits, comme l'explique Dani Ibandawaso, un Quado installé au rond-point Yamouissi.
Vous savez, au Congo, il n'y a pas d'emploi. Il faut se débrouiller. Je n'ai pas eu la chance de beaucoup étudier. J'ai jugé bon d'apprendre ces métiers au lieu de voler. Et Dieu nous bénit ici. Je paye le loyer, je scolarise mes enfants et ma famille ne manque pas de quoi manger.
Les clients de ces réparateurs nocturnes sont satisfaits du service et encouragent les jeunes à apprendre un métier pour éviter le chômage. Ismaël Kambale-Tsongo est motard de nuit, témoigne.
Ces réparateurs de nuit nous aident beaucoup. Qu'ils continuent ainsi, que les jeunes les rejoignent pour apprendre un métier au lieu de s'embrouiller dans des groupes de pression qui ne leur apportent rien. Il y a beaucoup de métiers à apprendre.
Depuis l'installation des lampadaires dans les rues de Beni, de nombreuses activités économiques sont menées par des hommes et des femmes pendant les heures nocturnes dans le cadre de l'autoprise en charge. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Capi.
En plus bref, sachez que la compagnie d'aviation privée Mongabaon Airlines étend ses lignes en République démocratique du Congo. Le vol inaugural de son Boeing 767 a eu lieu dimanche 1er septembre à l'aéroport international de Goma en provenance de Kinshasa. Cette compagnie privée devrait désormais desservir les lignes Kinshasa, Goma, Kisangani, Kindu, Lubumbashi, Kalemi, Beni, Bunia et Isiro, nous disent des sources bien informées au sein de la compagnie. De nombreux internautes saluent la venue de cette nouvelle compagnie et espèrent ainsi désenclaver une bonne partie de l'espace aérien en République démocratique du Congo. dont le souci de remettre les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie nationale, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a défini et fait adopter au dernier Conseil des ministres le profil du mandataire public. Jean-Lucien Boussa estime que les entreprises publiques de la RDC ne sont pas de canards boiteux. Elles ont plutôt manqué de bons gestionnaires et la bonne gouvernance. Jean-Lucien Boussa est l'invité de l'économie ce soir.
Écho d'économie.
Jean-Lucien Boussa, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le ministre, après avoir signé les contrats de performance avec les mandataires publics, apparemment vous n'êtes pas rassasié. Vous avez encore défini le profil du mandataire public et vous l'avez fait adopter au dernier conseil de ministres. Qu'est-ce que le commun de mortel peut retenir de cette initiative?
Mais d'abord, comme vous savez, nos entreprises publiques sont un maillon important de notre économie. C'est la colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo. Et le regard que nous avons eu en tant que Congolais de nos entreprises publiques a été un regard plus ou moins sceptique. Et pourtant, ces entreprises regorgent un potentiel immense. Mais pour répondre à votre question, il faut savoir pourquoi les entreprises publiques affichent des performances discutables. Pour être clair, des mauvaises performances. La réponse est donnée par des éléments simples. Parce que la bonne gouvernance n'y est pas, forcément, dans la plupart des entreprises. Mais pourquoi la bonne gouvernance n'y est pas, alors que les règles sont claires? Les lois aussi sont claires, il suffit simplement de les appliquer. Parce que derrière cette problématique se cachent des acteurs. Les acteurs de bonne ou de mauvaise gouvernance. Qui sont ces acteurs? Ce sont les mandataires publics. Si nos mandataires publics allient un management stratégique à un management de risque, nous sommes capables de pouvoir faire des entreprises du portefeuille ces vrais boulevards de développement économique et social du pays. Et donc, derrière donc ces mandataires publics, se cachent des critères, un profil. Mais qui sont et qui sont appelés à exercer les fonctions des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des administrateurs, des présidents des conseils d'administration? Je ne dis pas que ceux qui sont là n'ont pas le profit requis, mais je dis qu'il faut normer la question. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut résoudre les problèmes en partant de la source du problème. Le manque de performance est lié inextricablement à la capacité managériale des mandataires, à la qualité de gouvernance que ceci impulse et à la qualité de la gestion axée sur le résultat porté par les différents mandataires publics. C'est pour cette raison, pour corriger ou pour régler ces problèmes, dans le futur proche, il faut donc des critères solides, objectifs, pour être porté à la tête d'une entreprise publique, d'un établissement public et d'un service public.
Le futur mandataire de public devra avoir des connaissances universitaires, il devra faire preuve d'une bonne stratégie et avoir des connaissances en ce qui est de finance et de l'audit. C'est ce que vous avez défini comme critérium du futur mandataire public.
Tout à fait. Ce critérium nous permet finalement de pouvoir nous retrouver ces quatre éléments. Un mandataire public doit avoir le savoir. Et le savoir, c'est défini par un niveau de formation élevé, un niveau de formation supérieur. On peut dire un docteur, celui qui a un diplôme d'études approfondies, un master, un licencié, un gradué, etc. Ce sont des personnes qui ont la présomption de savoir. Deuxième critère, deuxième critère, c'est le savoir-faire. Vous avez le savoir, mais vous devez avoir le savoir-faire. Le savoir-faire, son contenu se trouve être une expérience professionnelle ou une expertise aiguisée dans un domaine précis. Et nous avons dit, pour être mandataire public, il faut avoir assumé les fonctions de direction dans une entreprise, n'est-ce pas, donnée, ou des fonctions similaires dans un autre organisme. Et donc, nous avons aussi dit que les mandataires doivent être recrutés parmi les personnes qui maîtrisent la filière. Je parle de la régie des eaux, de l'électricité, de la Gécamines, de l'ONATRA par exemple. Vous n'allez pas penser que celui qui n'a pas été, qui n'est pas ingénieur ou qui a un profil d'ingénieur ou d'un bon économiste ou ceci, puisse d'entre deux jeux porter les meilleurs résultats. Mais aussi, il est démontré que des personnes qui ont des compétences transversales, plutôt transférables, quelqu'un qui a été PDG d'une entreprise quelconque, mais qui a excellé dans ses capacités managériales, peut être porté à diriger n'importe quelle entreprise. Donc, je parlais du savoir-faire. Il faut le savoir-faire faire. J'ai parlé d'avoir assumé les fonctions de direction. Celui qui a assumé une fonction de directeur, sous-directeur quelque part, directeur quelque part, chef de département dans une entreprise, directeur de cabinet de ceci et de cela, celui-là a la capacité de savoir faire le travail aux autres. Donc, troisième élément. Quatrième élément, et c'est connu de tout le monde, le savoir-être, on nous a dit, science en conscience, n'est que ruine de l'âme. Donc voilà la panoplie d'éléments qui constituent les critères, qui permettent finalement de pouvoir avoir ces quatre éléments dont j'ai parlé, le savoir, le savoir-faire, le savoir-faire-faire, le savoir-être. Et donc, on en arrive à la problématique du niveau d'études, on en arrive à la problématique de l'expérience ou de l'expertise avérée, on en arrive au fait qu'un mandataire ne doit pas sortir, on ne devait pas primer par hasard, n'est-ce pas? Il ne doit pas sortir du néant, il doit avoir exercé quelque part pendant quelques années. Et donc, et là nous avons limité les critères, un mandataire doit avoir des sens de l'éthique professionnelle. Donc voilà en gros ce que nous avons voulu, et je sais que si nous avons ces profils de mandataires, l'administration des entreprises va évoluer positivement.
Excellence, beaucoup d'études avaient été faites dans ce pays. Il y a eu des réformes dans les entreprises publiques, vous vous en rappelez, autour de 2009-2010. La plupart de ces entreprises avaient été transformées en sociétés commerciales, dont jusque-là l'État congolais reste le seul actionnaire. Et ces études avaient montré que ces entreprises publiques sont des canards boiteux. Et ce sont ces canards boiteux-là dont vous héritez aujourd'hui, votre vision que vous impulsez dans la gestion de ces entreprises.
Ma vision en quatre points, mais avec une introduction que j'ai indiquée tout à l'heure. Les entreprises publiques du portefeuille de l'État, je dirais mieux les entreprises du portefeuille de l'État, sont la colonne vertébrale de l'économie de la RDC. Ils sont dans tous les secteurs. Le secteur des transports, routiers, ferroviaires, terrestres, aériens, le secteur minier, le secteur de la télécommunication, le secteur financier, Cadeco, Sofidé, et tant d'autres secteurs. C'est véritablement la colonne vertébrale de l'économie. Et ces entreprises ont un potentiel de développement immense. J'ai tout à l'heure indiqué le vrai problème qui se pose à elles, c'est le problème de la qualité du management, de la qualité de la gouvernance et de la qualité de la gestion. Face à ces potentiels, si nous administrons la cure du management stratégique et du management des risques avec des acteurs d'un profil compatible à notre ambition, nous aurons des réponses très claires. Et moi, je n'utilise pas l'expression canard boiteux. J'ai dit qu'il y a des défis à relever. Et donc, ma politique à la tête de ces ministères, c'est de dire donc, un, il faut arrêter la dégradation de ces entreprises. Premier axe. Deuxième axe, il faut exploiter de manière efficiente le potentiel dont disposent ces entreprises. Et troisième axe de ma politique, c'est qu'il faut absolument relancer ces entreprises-là, avoir le courage de les redresser. Et c'est possible. C'est possible parce que je vois comment l'État dépense beaucoup de ressources en termes d'exonération et autres facilités fiscales à destination du secteur privé, que j'apprécie. Et donc, je suis déterminé avec, sous l'impulsion de Mme la Première Ministre, du chef de l'État, à pouvoir insuffler une dynamique nouvelle. Il faut mettre le moyen, à la fois fiscal et budgétaire, à la disposition de ces entreprises pour que celles-ci puissent décoller. C'est l'État qui est actionnaire. Et ces entreprises sont créatrices d'emplois, des richesses. n'est-ce pas? Il faut donc les aider, c'est même pas les aider, il faut donc porter ces entreprises dans une politique économique très claire où elles doivent jouer un rôle important.
Donc, de même que l'État accorde des exonérations aux entreprises privées, vous portez ce souci que les entreprises du portefeuille de l'État bénéficient des mêmes avantages?
Non, c'est pas en fait ce que je voulais dire. J'ai dit que les entreprises publiques, doivent, et c'est le cas aujourd'hui, revenir au cœur de l'action économique de l'État. Et elles doivent bénéficier d'autant de facilités pour leur permettre de décoller. Parce que c'est elle qui tient l'économie. Mais regardez, si vous mettez en balance les entreprises publiques de l'État qui sont les entreprises des Congolais et les entreprises privées qui se développent de plus en plus, qui ont beaucoup d'avantages, il faut poser la question, relative au contrôle de l'économie par les nationaux. Le patriotisme économique doit nous amener à pouvoir faire de ces entreprises, comme j'ai indiqué tout à l'heure, le véritable boulevard du développement économique du pays. Et c'est ça ma conviction et c'est ça ma détermination.
Vous le portez à cœur, la relance de ces entreprises publiques. Nous avions appris il y a quelques temps que vous avez pu obtenir un financement pour relancer l'AMIBA. Vous nous confirmez cette information?
Mais tout à fait, le gouvernement a décidé qu'il faut relancer l'AMIBA. L'AMIBA, c'est une entreprise dont le rôle catalyseur dans l'économie de la région de Kasaï et les environs n'est pas à démontrer. Mais avec un potentiel immense. Potentiel immense. Et donc, si l'AMIBA est relancée, l'économie de la province va être relancée. La relance de l'AMIBA implique des effets d'entraînement énormes sur le secteur de l'électricité et sur les autres secteurs en termes de fourniture et de sous-traitance. Et le gouvernement a décidé de pouvoir allouer à l'AMIBA 70 millions de dollars pour sa relance au regard du business plan présenté par l'AMIBA. Et donc, je veux rassurer notre opinion publique que nous serons assez rigoureux dans la mise en œuvre de cette mesure. Le ministre des Finances et moi avons déjà défini la manière d'opérer pour que l'AMIBA reprenne effectivement sa place dans l'économie, son rôle dans la production intérieure.
Vous aviez également visité la cimenterie nationale, monsieur le ministre. Aujourd'hui, le marché du ciment en RDC est porté par des entreprises privées. La CINAT, c'est la société de l'État. Elle se trouve dans quelle situation aujourd'hui, vous qui l'avez visitée?
Oui, la CINAT est une société de production de ciment appartenant à 91% à l'État congolais. Créée en 1974 pour des raisons stratégiques et pour des raisons aussi évidentes en termes de besoins, on s'est produit dans le pays, construction de routes, construction de bâtiments, etc., comme vous le savez si bien. Et donc l'état actuel de la cimenterie est tel que l'usine existe. Elle fonctionne de manière minimale. Elle a quelques difficultés en termes de modernisation, en termes de réhabilitation de certains équipements, mais elle est capable de se relancer. Voilà. Et donc, moi, je suis convaincu que si nous utilisons tous les mécanismes nécessaires, avec toutes les hypothèses pertinentes, en termes de financement, nous sommes capables de relancer cette industrie, cette entreprise qui a la capacité de production de 300 000 tonnes de ciment l'année. Et donc, là-dessus, nous sommes en train de réfléchir sur deux hypothèses majeures. La première, comment l'État peut-il intervenir pour que la cimenterie nationale puisse être relancée d'une part et d'autre part, mais l'intervention de l'État ne peut-elle pas être portée sur l'ouverture, n'est-ce pas, à des partenariats privés et qui permettent finalement d'avoir la possibilité de ressources financières disponibles partant des privés pour finalement avancer dans la relance de cette activité. La réflexion n'est pas terminée. Très bientôt, un dossier sera soumis au Conseil des ministres à cet effet.
Nous revenons, monsieur le ministre, sur le profil du mandataire public que vous avez fait adopter, accepter au Conseil des ministres. Mais d'aucuns diraient aujourd'hui les entreprises publiques sont un peu politisées. La nomination des mandataires publics se fait par des groupements, de regroupements politiques, des partis politiques. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vous qui désignez ces mandataires qui ne permettaient pas à ces sociétés vraiment de jouer le rôle qui était le leur à la création au début? Est-ce que les profils que vous avez définis, on ne peut pas les trouver dans les politiques que vous nommez à la tête de ces entreprises?
Pour répondre à cette question, je voudrais revenir sur quatre choses. La première, est-ce qu'on a voulu que les mandataires publics puissent être recrutés parmi les nombreux Congolais qui sont très bien formés? On a beaucoup de docteurs, on a beaucoup de diplômés d'études approfondies, on a beaucoup de gens qui ont la maîtrise, on a beaucoup de licenciés, de gradués. Ça, de un. Mais aussi, on a des gens qui ont commencé dans une entreprise comme plombier. Et l'exemple le plus connu de tous les Congolais, c'est l'exemple de papa Tchongo Tshibikumbula Watumba. D'heureuse mémoire, à la Régie des Eaux. Qui a commencé comme plombier, mais qui a gravi les marches jusqu'à devenir DG et bon manager. Deuxième élément, j'ai parlé de l'expérience professionnelle. Ça, c'est pas discutable. Troisième élément, j'ai parlé d'avoir assumé une fonction de direction, avoir la capacité de savoir faire le travail. Et quatrième élément, j'ai dit, le tiers des mandataires publics doit être recruté dans l'entreprise. Surtout pour les postes de directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il a la connaissance de l'entreprise, connaissance exacte de l'entreprise. Il a l'information sur l'entreprise, n'est-ce pas? Première raison, et ça va profiter au conseil d'administration, naturellement. Deuxième raison, les jeunes hommes qui sortent des universités, qui dit, moi, je commence ma carrière à la SNEL, à la Régie des Eaux, etc., et j'ai envie de devenir un jour directeur général. Il va commencer à prester de manière telle qu'il soit apprécié, parce qu'il sait qu'il y a une perspective qui l'attend au sein de l'entreprise. Et donc, ça motive les cadres de l'entreprise à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, par conséquent, il y a un bénéfice associé à l'entreprise elle-même. Donc, voilà autant de critères. Alors, est-ce que ces critères peuvent aussi être adaptés en politique? Mais bien sûr que oui. Qui sont les politiques? Mais les politiques, c'est des gens qui ont étudié. Dans les politiques, vous trouvez des professeurs d'université. Vous trouvez des gens barrés d'expérience professionnelle, etc. Ce qui est exigé maintenant aux politiques, alors que les critères sont maintenant approuvés par les gouvernements, c'est que lorsque vous avez les quotas, vous êtes les partis politiques A, vous devez proposer un DG à la GECAMIN, mais cherchez quelqu'un qui a la capacité de manager. Vous êtes les partis politiques B, on vous dit, mais vous devez proposer un directeur général, je veux dire, on dit quoi, à la SNCC. Mais dans votre parti, vous avez certainement des ingénieurs, des économistes qui ont ces profils-là. Mais ça permet aussi d'améliorer la qualité des recrutements au sein des partis politiques, mais en même temps d'avoir des formations au sein des entreprises, au sein des partis politiques. Donc aujourd'hui, cette proposition adoptée par le gouvernement vient régler une panoplie de problèmes et donc les gens ne devraient pas être inquiets. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ne pas agir. Il y a un temps pour agir.
Donc les Congolais peuvent espérer voir aujourd'hui leurs entreprises publiques redevenir ce qu'elles étaient et jouer leur rôle, le rôle qui leur a été défini dans l'économie et porter l'économie du pays.
La politique porte le chef de l'État aujourd'hui par rapport à la place des entreprises du portefeuille de l'État dans l'économie est telle que nous sommes en train justement de mettre en place des mécanismes qui permettent à ces entreprises de décoller. Je vous rappelle qu'il y a quelque temps, le gouvernement a adopté deux dossiers. Le premier, c'est celui des préférences commerciales entre les entreprises publiques et services publics de l'État. Exemple, nous avons l'hôtel des monnaies qui a une expertise, mais aussi des outils qui permettent de produire des imprimés de valeur.
Mais qui n'est souvent pas utilisé.
Pourquoi vous allez les chercher ailleurs? Et cette décision prise par le gouvernement de préférence commerciale inter-entreprise, inter-service, permet justement d'aller d'abord vers l'investissement de l'État, n'est-ce pas? Vers l'outil dont détient l'État pour produire les imprimés de valeur. C'est un exemple. L'assurance. L'État est une société d'assurance. Mais attendez, vous êtes entreprise du portefeuille de l'État, vous allez vous assurer ailleurs. Ah non, je vous engage à aller vers la SONAS. Mais il faut que la SONAS améliore la qualité de ses prestations, tout simplement. Donc voilà, deuxième décision prise par les gouvernements, C'est celui du désendettement des entreprises du portefeuille de l'État. Vous avez l'État qui doit aux entreprises, les entreprises qui doivent à l'État. Comment ne pas faire un paiement croisé pour simplement annuler certaines dettes et alléger la trésorerie des entreprises? C'est aussi des décisions qu'on a prises. Autre mesure que nous avons prise ici, mais ça, vous l'avez vu dans les médias, la signature des contrats mandats. On a contracté, les mandataires ont contracté avec l'autorité de tutelle représentant de l'État pour dire ben, la gestion doit se faire dans telle direction. S'il va dans l'autre direction, ça ne marche pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois qu'on est en train de mettre en place des mécanismes qui permettent finalement d'améliorer la gestion de ces entreprises.
À moins que vous ayez un mot de la fin, sinon, monsieur le ministre, Radio Capi vous dit merci pour ce temps que vous lui avez accordé.
Je vous en prie.
J'ai quand même réussi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur www.radiookapi.net. Ce numéro Écoute Économie se referme.